Imaginez-vous donc qu'hier, c'était apparemment la journée de la sieste. Bel beau moment pour faire une sieste. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai découvert, c'est que c'était la journée internationale du sommeil. Oui, mes amis, il y a une journée internationale pour dormir, en tout cas pour nous encourager à le faire. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas bien. Je peux dire, j'en suis. Pour toutes sortes de raisons, parce qu'on regarde la télé trop tard, qu'on a des écrans trop tard. Je sais pas si vous faites du Facebook ou autres réseaux sociaux, vous, la nuit. Là encore, je dois avouer que je le fais un peu trop tard. Les enfants le font, les ados le font, les adultes, les aînés, tout le monde. On devrait probablement dormir plus qu'on le fait. Ou alors, il y a des gens qui dorment trop aussi. Il y a des gens qui ont de la difficulté à bien avoir une nuit bien... qui ont une nuit remplie, mettons, qui est occupée leur nuit. Ils se réveillent, ils ont les jambes qui bougent, ils se lèvent pour aller aux toilettes, ils ont faim. Finalement, c'est assez spécial la façon dont on a de la difficulté à dormir et les problèmes de sommeil sont très fréquents avec tous les impacts aussi que ça peut avoir. Nadia Gosselin est avec moi. Elle est directrice scientifique du Centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Elle est neuropsychologue. Bonjour, Dr. Gosselin.
Bonjour.
Les problèmes de sommeil sont nombreux.
Ils sont très nombreux.
Et dans le premier, on peut dire que l'apnée du sommeil, c'est pas mal un des plus importants ici, ressenti par les gens.
C'est probablement le plus fréquent hein, chez les jeunes adultes. Les adultes d'âge moyen, c'est environ 20 % que des personnes qui vont en présenter. Ils ne sont pas toujours conscientes qu'ils vont présenter de l'apnée du sommeil. Chez les personnes âgées, par contre, ça va monter jusqu'à 50 % des personnes âgées qui vont présenter de l'apnée du sommeil.
Ça vient de quoi, ce problème-là d'apnée?
Le principal facteur de risque, c'est l'obésité et c'est en fait le fait de prendre nos tissus adipeux, donc le gras, près des voies respiratoires, près du cou, de la gorge. Donc ça, c'est le premier facteur de risque. Le deuxième facteur de risque, c'est le fait d'être plus âgé. Donc avec l'âge, on est plus à risque d'avoir de l'apnée du sommeil. Mais par contre, il peut y avoir des personnes qui sont très minces et qui vont présenter de l'apnée du sommeil. C'est le cas des personnes, par exemple, qui ont un menton très reculé, une grosse langue. Donc toute la morphologie crânio-facial, donc la façon que notre gorge, que notre crâne est formé, peut nous rendre plus à risque d'apnée du sommeil aussi.
Et vous dites qu'il y a bien des gens qui ne savent même pas.
Une grande majorité est non diagnostiquée. Souvent, le partenaire de lit, lui, va être au courant que l'autre personne fait de l'apnée du sommeil. Hein, ça va être bruyant. Souvent, quand on fait de l'apnée du sommeil, on ronfle.
Ouais.
On arrête de respirer. La personne qui dort avec nous s'en rend compte. Mais la personne, elle, qui a de l'apnée du sommeil, ne va pas nécessairement se rendre compte qu'elle a des mauvaises nuits. Elle peut se rendre compte, par contre, qu'elle a des mauvaises journées. Elle peut être plus somnolent. Dans la journée, les gens vont avoir tendance à plus s'endormir. C'est d'ailleurs un des gros facteurs de risque d'avoir des accidents de la route, le fait d'avoir des apnées du sommeil parce qu'on va avoir tendance à plus s'endormir dans la journée. Mm-hmm. Ça peut faire en sorte qu'on est beaucoup moins efficace au travail aussi, avoir des difficultés à se concentrer, à focusser sur la tâche. Donc, l'apnée du sommeil va avoir beaucoup de conséquences dans la journée, même si on n'est pas conscient qu'on a un mauvais sommeil.
Wow. Est-ce que vous diriez qu'on est, règle générale, plutôt fatigué, qu'on dort pas bien au Québec?
C'est effectivement un épidémique comme problème. Ouais. Donc, la population en ce moment ne dort pas assez, ne dort pas assez bien. Il y a plein d'éléments qui font qu'on dort moins bien. Bon, on parlait de l'obésité, l'apnée du sommeil, mais comme vous disiez aussi, tous les écrans qui nous stimulent en soirée. Donc, d'avoir des écrans dans la chambre à coucher, d'avoir une tablette, un cellulaire, des console de jeux vidéo. Ouais. Donc, non seulement c'est l'aspect stimulant de ces tablettes-là, de ces écrans-là, mais c'est aussi la lumière bleue qu'ils vont générer parce que la lumière bleue de ces écrans-là va avoir un impact sur le cerveau en lui disant de rester éveillé. Donc, cette lumière bleue-là empêche l'hormone de sommeil, la mélatonine, d'être sécrétée et va nous garder éveillés plus longtemps.
Pourquoi la bleue? Pourquoi on parle de lumière bleue?
En fait, c'est une région du cerveau qui est sensible à ce spectre de la lumière-là. C'est la lumière qu'on va voir, entre autres, quand on est dehors. La lumière du soleil, elle est très blanche, très bleue. Donc, notre cerveau, de façon évolutive, est sensible à cette lumière-là pour nous dire à quel moment c'est le jour puis à quel moment c'est la nuit, pour savoir à quel moment il faut dormir puis à quel moment il faut être éveillé. Donc, c'est pour ça qu'on est particulièrement sensible à la lumière bleue. Et c'est une lumière qui est aussi très prépondérante dans les écrans qu'on utilise.
Ah ouais. Les fameuses LED, là, les lumières aussi. Là. Il me semble que il y a beaucoup de gens là, qui s'en sont plaints au cours des dernières années avec tous ces changements dans la luminosité des villes. Il y a beaucoup de municipalités qui ont accepté le nouveau modèle de lumière LED. Là. Vous savez, les LED dont on nous a dit c'est plus écologique. Puis finalement, quand on se rend compte, quand on lit là-dessus, on se rend compte que c'est pas forcément plus environnementalement parlant mieux, ces lumières-là. C'est un autre gros scam, ça. Mais bon, mais c'est une lumière qui est très puissante. À tel point, quand on regarde la planète, là, il y a des jeunes là, qui marchent aujourd'hui là, pour nous rappeler que l'environnement, c'est important puis qu'il faudrait tous faire nos gestes en conséquence. Mais quand tu regardes la Terre, les astronautes là, qui sont dans l'espace prennent des photos de la Terre qui est illuminée. C'est comme une espèce de grosse ampoule tellement on en a mis partout de la lumière.
Mais c'est vrai que le sommeil...
Ça nous aide pas, ça.
Ça nous aide pas. En fait, c'est... toute l'ère industrielle a fait en sorte que notre sommeil a changé. À partir du moment où on a eu l'électricité, de la lumière en soirée, de la stimulation en soirée, donc, ça nous pousse à nous coucher plus tard. Le lendemain matin, ben on a des horaires de travail, il faut se réveiller. Alors là, on se couche un peu trop tard, mais on doit tout de même se réveiller tôt pour aller au travail. Donc, on coupe sur notre sommeil. Donc, au lieu de dormir le 7 à 8 heures qu'on devrait dormir, ben finalement, on se couche un peu tard, on doit se réveiller. On se réveille avec un cadran, évidemment.
Ouais.
Et là, on dort pas assez. On essaie de récupérer un peu la fin de semaine, mais c'est jamais aussi bon que de dormir de façon... continuellement, tous les jours, notre 7 à 8 heures de sommeil.
Et ça, vous dites, c'est moyen. La personne moyenne doit dormir 7 à 8 heures par jour parce qu'il y a des petits dormeurs.
Il y a des petits dormeurs.
Il y a des gens qui vont dire, moi, en bas de 10 heures, je suis pas parlable. Il y a plein de mythes aussi qui entourent le sommeil. Par exemple, on dit souvent que les heures dormies avant minuit valent plus que les heures après minuit. Est-ce que c'est vrai, ça?
C'est partiellement vrai. Dans le sens, le sommeil est composé de différents stades. Et le stade le plus profond de sommeil, c'est le stade qui va survenir en début nuit. C'est pour avoir un bon stade, les bons stades profonds du sommeil, il faut se coucher à heures régulières et avoir donc notre bon sommeil de début nuit. Donc, si on a l'habitude de se coucher à 10h30 le soir, bien, si on veut avoir notre bon sommeil profond, idéalement, il faut se coucher à tous les soirs vers 10h30. Si on se couche plus tard, ben notre sommeil va être effectivement un peu moins bon. On va peut-être avoir un peu moins de sommeil profond dans le courant de la nuit. À la fin de notre nuit, notre sommeil va être un petit peu plus fragmenté. Donc, on va avoir plus d'éveil. Il va être moins consolidé, qu'on va dire. Donc, oui, c'est important de se coucher à heure régulière. Sauf que, bon, si on a un horaire de travail qui fait qu'on se couche à tous les soirs à minuit 30,
ouais,
mais que c'est régulier, puis qu'on se sent en forme le lendemain, ben on peut adopter cet horaire-là, évidemment.
À quelle heure vous couchez, vous?
À quelle heure je me couche, moi? Ben, il faut dire que...
Est-ce que vous faites ce que vous dites qu'il faut faire?
Ben, en fait, j'ai un assez bon sommeil. Ouais. Je me réveille sans cadran, mais bon, avec les enfants, parfois, ils jouent le rôle de cadran. J'essaie d'avoir des horaires très réguliers de sommeil, mais je pense que le fait d'avoir des enfants quand on arrive à l'âge adulte, parfois, ça va soit empirer notre sommeil, en tout cas, certainement dans les premières années, mais ça nous aide quand même à avoir des horaires réguliers de sommeil. Donc, oui, j'ai un bon sommeil, mais j'ai le gène du syndrome des jambes sans repos.
Hein? On va en parler de ça. J'en profite d'abord pour dire aux gens que si vous avez des questions à Nadia Gosselin, mon invitée, qui est directrice scientifique au Centre d'études avancées en médecine du sommeil à l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850. Vous pouvez nous joindre sans frais partout au Québec en faisant le 1-866-790-9850. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous voudriez venir à bout de vos problèmes de sommeil, beaucoup de gens en ont. Hein. Nadia Gosselin nous le dit, l'apnée du sommeil est probablement celui qui touche le plus de monde, beaucoup lié à l'obésité. Vous venez de dire, on a un gène, nous, au Québec, particulier, d'un problème bien, bien particulier dont on parle très peu. C'est celui des jambes...
Le syndrome des jambes sans repos.
Sans repos, voilà. Expliquez-nous ce que c'est un peu, Nadia.
En fait, le syndrome des jambes sans repos, c'est le fait d'avoir des fourmillements, des picotements qui vont survenir surtout en soirée, donc près de l'heure du coucher, et qui vont être associés à une envie irrésistible de bouger les jambes. Ce qui va faire en sorte que lorsqu'on essaie de s'endormir, ben nos jambes vont bouger presque sans qu'on le veuille, finalement.
Les jambes bougent toutes seules, vraiment. Là.
Ben, les jambes bougent toutes seules. C'est une envie irrésistible de bouger. Parfois, même lorsqu'on va être endormi, on va continuer de bouger les jambes. Ça peut même affecter notre partenaire de lit, hein, parce que parfois, ça va être comme des petits coups de pied qu'on va donner. C'est des mouvements de jambes qui vont survenir périodiquement. Ça veut dire, par exemple, à chaque minute, il va avoir ces mouvements-là.
Oh,
et en soirée, ça peut faire en sorte que ça nous rend ça rend le sommeil impossible. Donc, au Québec, on est plus à risque d'avoir ce syndrome-là parce que il y a des facteurs de risque, dont certains gènes. Et au Québec, on est plusieurs à avoir ce gène-là. Donc, il y a certaines familles au Québec où ils ont plus le syndrome de jambes sans repos que d'autres.
Il y a le gène, donc, qui est rattaché à ça.
Oui, en fait.
Et pourquoi plus ici?
Probablement que ça vient de nos ancêtres, des immigrants qui sont venus ici. Les familles qui ont immigré ici étaient donc porteurs de ces gènes-là. Et ce qui fait qu'au Québec, maintenant, la fréquence du syndrome des jambes sans repos est plus élevée que d'autres régions.
Puis à part le fait que ce soit vraiment fatigant pour la personne à qui ces jambes appartiennent, et puis le conjoint ou la conjointe qui est à côté, est-ce que ça peut être un problème, santé?
Ça peut être un enjeu de santé, mais d'abord, ça peut causer de l'insomnie sévère.
Mais oui, parce que ça te réveille tout le temps.
Il y a des personnes qui ne sont pas capables de s'endormir. Ça arrive spécifiquement en soirée. Et si on attend, plus la nuit avance, bien plus le problème s'estompe. Donc, uh-huh. Pour certaines personnes qui ne vont pas être capables de s'endormir, puis ça peut prendre quand même plusieurs heures, il peut avoir des conséquences parce qu'on sait que lorsque nos jambes s'activent, le cœur va s'activer aussi. Donc, ça peut avoir des conséquences sur le cœur, sur la santé cardiovasculaire. Donc c'est pas un problème qui est banal. Donc, par l'insomnie, par les conséquences sur le cœur aussi. Mais c'est un problème qui est peu connu. Parfois, c'est même difficile de se rendre compte que c'est ça qu'on a. Donc, on va avoir... ce syndrome-là, mais comme il est peu connu, on sait pas trop ce qui se passe. Lorsqu'on l'a, une des façons de faire pour régler notre problème, c'est de marcher. Donc, lorsqu'on l'a en soirée, on peut se relever de notre lit et de marcher. Ça peut atténuer les symptômes. Parfois, les gens vont dire que certains massages vont aider. Mais si c'est trop sévère, ben alors là, il faut contacter le médecin pour voir s'il y a pas des traitements qui existent pour ce syndrome-là.
Nous allons aller à la pause là-dessus. On revient avec vos commentaires. Bonjour Nicole, vous avez un problème de sommeil?
Oui, j'appelle pour une information.
Oui.
Mon fils m'a donné une montre intelligente et depuis ce temps, je peux voir mes phases de sommeil. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le sommeil profond est peu important. J'ai surtout un sommeil léger à 57%, un sommeil paradoxal à 21% puis un sommeil profond à 9%. Est-ce que c'est normal qu'en vieillissant, le sommeil profond soit pas important?
Nadia Gosselin.
En termes de pourcentage, là.
Vous avez tout à fait raison. En vieillissant, le sommeil profond prend moins d'importance dans la nuit de sommeil. En fait, les pourcentages que vous rapportez de sommeil paradoxal, le sommeil où est-ce qu'on rêve, de sommeil profond et de sommeil léger sont normales, ouais, pour des personnes qui sont dans l'âge moyen avancé. On s'inquiète pas. C'est vrai que les jeunes enfants, ils ont beaucoup de sommeil profond. Chez l'adulte d'âge moyen, il y en a déjà un peu moins. Et plus on avance en âge, moins on va avoir de sommeil profond.
C'est ça. Puis le sommeil profond, là, faut pas que ça, c'est pas 80% de notre sommeil. Là. Souvent, on a tendance à penser ça, mais en fait, c'est peu dans toute la...
Oui, en fait, chez les adultes, les jeunes adultes, les bons dormeurs peuvent avoir peut-être 25% de sommeil profond. Chez des personnes âgées, parfois, il va y avoir des nuits sans sommeil profond, complètement. Donc, le sommeil profond disparaît avec l'âge. On s'en rend compte. On a l'impression que notre sommeil est plus léger, plus mouvementé, mais c'est normal.
Imaginez le monde. Là. Quand vous lisez dans le journal, Nadia, là, qu'il y a des gens dans les CHSLD qu'on couche à 4 heures là, l'après-midi, là, parce qu'il faut... pour le chiffre du soir, là, c'est mieux de même. Vous devez pas être
Le sommeil dans les centres de soins, donc à l'hôpital, dans les CHSLD, c'est pas encore une priorité, je dirais, des institutions. Donc parfois, il y a du personnel pour qui c'est vraiment une priorité puis qui vont s'en soucier beaucoup. Mais effectivement, les heures de coucher, de lever, sont pas adaptées.
4 heures l'après-midi. Madame, mets ta jaquette, là, ça va faire mon affaire.
Non,
j'en reviens pas.
C'est très difficile. Le sommeil, c'est une des raisons pourquoi les personnes, par exemple, qui sont hospitalisées ont hâte de retourner à la maison.
Clairement.
C'est pour pouvoir bien dormir.
Ouais.
Donc, il y a vraiment un changement de mentalité qui est nécessaire parce que lorsqu'on est malade, lorsqu'on a un début de démence, qu'on a une démence, bien, le sommeil est particulièrement important,
ouais,
pour la récupération.
On a Marc avec nous. Bonjour, Marc.
Bonjour.
On vous écoute?
Ça va bien. Oui. Moi, j'ai une question. En fait, j'ai un horaire rotatif, une semaine de jour, une semaine de soir, une semaine de nuit.
Oh, wow.
Puis je finis par faire juste des siestes tout le temps. On dirait que je dors jamais vraiment comme il faut. Même 4-5 heures d'affilée, ça n'arrive jamais.
Mais êtes-vous fatigué? Puis, avez-vous l'impression d'être fatigué?
On s'habitue. On dirait qu'on n'est plus fatigué vraiment.
Ouais.
Mais on dirait, je veux savoir s'il y a un problème pour la santé qui est possible avec ça.
Nadia?
Oui, le travail rotatif ou le travail de nuit a des impacts sur la santé. Donc, c'est certainement pas l'idéal. Bon, évidemment que parfois, on n'a pas le choix. Là. Je veux dire, ça fait partie de notre travail. Oui, c'est difficile pour la santé. Il y a évidemment, il faut essayer de trouver les solutions pour bien dormir. Les semaines où on, parfois même les semaines où on travaille deux jours, on a de la difficulté à dormir la nuit parce que les semaines d'avant, mm-hmm. ben, on a dormi deux jours. Ce qui peut être aidant chez les personnes, c'est par exemple de s'assurer de rester loin de la lumière bleue pendant la nuit, donc dans notre cadre de travail, et même le matin lorsqu'on rentre à la maison, de par exemple de porter des lunettes de sommeil pour vraiment dire à notre cerveau que c'est encore la nuit pour pouvoir bien dormir une fois rendu à la maison.
Avez-vous dit des lunettes de sommeil?
Des lunettes de sommeil, j'ai dit des lunettes de sommeil, des lunettes de soleil.
Okay. Non, mais j'ai bien compris ça, moi, là. Oui, c'est ça. Vous avez dit mais c'est qui ont des lunettes de sommeil?
On devrait peut-être les inventer.
Là, il y a quelque chose là, à faire. Là. Moi, vous mettez des lunettes de sommeil sur le marché, j'en achète. Là,
je pense que
ça m'aide à dormir. Là. Moi, je ne sais plus quoi faire.
Je pense que je deviendrai très, très,
oui,
très populaire.
Je pense qu'il y a un marché pour ça, Nadia. On a Francis avec nous. Bonjour, Francis.
Oui, bonjour, Isabelle.
On vous écoute.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Allez-y.
Je veux juste, en fait, plus un témoignage, quelques questions aussi. Moi, j'ai... ça fait environ une dizaine d'années que je prends des pilules pour dormir. Et
des somnifères ou de la mélatonine?
Non, c'est vraiment des somnifères. J'ai fait le tour avec mon médecin parce que récemment, ils ont arrêté de la prescription du clonazépam. La demande d'arrêter de les prescrire. Donc, on essaie de faire de la recherche, trouver autre chose. Et on a trouvé la quétiapine qui marche quand même bien pour moi.
Mm-hmm.
Mais c'est comme... J'ai fait un sevrage le printemps passé pour essayer d'arrêter de prendre tout ça. J'ai été capable de faire 3 mois, mais c'était un 3 mois complètement horrible. J'arrive pas à retrouver mon corps qui est capable de s'endormir tout seul.
Nadia?
Donc, façon de retrouver cette espèce de... Parce que mon problème, c'est l'anxiété du sommeil. Donc, aussitôt que je réussis pas à m'endormir, mon corps commence à stresser et n'arrive plus à s'endormir par lui-même.
Oui, mais puis ça, c'est intéressant. Je voulais en parler justement avec notre invitée Nadia Gosselin parce que l'anxiété du sommeil, c'est assez déroutant.
En fait, c'est comme ça que ça se construit, l'insomnie. C'est que souvent, il va avoir un élément particulièrement stressant dans notre vie qui va faire que pendant certaines nuits, pendant quelques semaines, on va avoir de la difficulté à s'endormir. Par la suite, l'événement stressant va disparaître, mais l'insomnie va s'être installée parce qu'on développe une relation avec notre lit, avec le sommeil, qui est de l'anxiété. On se couche le soir puis on se dit « bon ». Est-ce que cette fois-ci, je vais être capable de m'endormir? Puis là, quand on voit qu'on n'est pas capable de s'endormir, bien, au lieu que le corps se relaxe, c'est l'inverse qui se passe. Le corps s'active, notre rythme cardiaque augmente, nos pensées augmentent. Donc, c'est très difficile de défaire ce cercle vicieux-là d'anxiété liée...
Puis surtout, dans le cas de Francis, il y a des somnifères. Là.
Donc, c'est vrai que les somnifères peuvent aider à diminuer ce cercle vicieux-là, mais les somnifères seuls ne réussissent pas à le faire.
On les prend longtemps aussi, Nadia, peut-être qu'à un moment donné, on perd, c'est ce qu'il décrivait. Là,
on peut s'habituer aussi donc à l'utilisation des somnifères, puis il y a plusieurs personnes qui ont peur de cette habituation-là aussi. Ce que les études montrent, c'est que ce qui est le plus efficace, c'est des thérapies comportementales. Donc, à Montréal, il y a ce genre de thérapies-là qui sont offertes.
Ah ouais.
Oui, et qui, donc, nous réapprend comment avoir une meilleure relation avec notre lit, avec notre sommeil. Donc, les somnifères seuls, c'est pas ce qui est plus efficace. Les études, ce qui montre, c'est que les thérapies comportementales ont plus d'effets.
Est-ce qu'il y en a ailleurs? Parce qu'on est réseau, tout le monde au Québec nous entend. Donc, est-ce qu'il y a Montréal, vous dites, où il y a ce genre de thérapie? Est-ce qu'il y en a ailleurs au Québec?
C'est offert aussi à Québec. Il y a des thérapies comportementales qui sont offertes pour l'insomnie.
Et on demande ça à son médecin de famille?
À son médecin de famille. Okay. Il faut être référé. Il y a aussi plusieurs psychologues qui sont spécialistes du sommeil et qui peuvent offrir offrir ces thérapies-là. Et vous allez voir, dans les prochaines années, il y a plusieurs outils, même des outils web, qui sont développés pour pouvoir recevoir cette thérapie-là via Internet, par exemple.
Ah ouais. Il va falloir changer la lumière de nos iPhones parce
on
que
on utilisera la lumière moins bleue pour
on a Claudette avec nous. Bonjour Claudette.
Bonjour. Moi ça me réveille souvent la nuit, mais même ça m'arrive en phase assise ou en regardant la télé, des crampes majeures dans les gros muscles des jambes, dans la cheville, dans le mollet, dans la cuisse. C'est extrêmement douloureux et ça dure assez longtemps.
Mais c'est pas forcément quand vous dormez seulement. Là. C'est même...
juste quand je dors, mais des fois, quand je dors, ça peut me réveiller.
C'est peut-être pas un trouble du sommeil, là. C'est peut-être autre chose.
Oui, il y a plusieurs.
En fait, parce qu'on parle des symptômes de jambes sans repos, est-ce que c'est la même chose ou...
Parfois, dans le syndrome des jambes sans repos, les gens vont décrire plus des crampes que des fourmillements ou des picotements. Donc, ça peut être ça. Ça peut être autre chose aussi. Certainement que d'avoir des douleurs, ça nous empêche de dormir. Donc, lorsqu'on a des douleurs aux jambes, aux membres qui nous empêchent de dormir, c'est important d'en parler à son médecin pour voir s'il n'y a pas une référence qui doit être faite à des spécialistes du sommeil.
Merci. Suzanne, on va terminer avec vous. Bonjour, vous avez une question?
Oui, bonjour. Je riais tantôt avec les lunettes de sommeil.
Parce ça marcherait, hein?
C'est un peu ma question. C'est que j'ai commencé des fois à écouter la télévision avec une paire de lunettes fumées en soirée. Moi, je fais pas d'ordi puis de tablette ou de téléphone du tout le soir, mais la télévision. Puis j'ai l'impression que ça m'aide. Est-ce que ça peut couper la fameuse lumière bleue? Est-ce que c'est psychologique ou...
Je dirais que c'est certainement... Ça aide certainement. Comme sur les tablettes, maintenant, il y a des options pour couper la lumière bleue en soirée, donc c'est aidant. Donc évidemment que lorsqu'on est exposé à des écrans, tout dépend aussi du contenu. Donc si c'est un contenu très très stimulant, ben même si c'est pas de la lumière bleue puis que ça nous stimule beaucoup, ben ça peut nous empêcher de dormir. Par exemple, de répondre à nos courriels ou en soirée ou de travailler sur notre ordinateur en soirée, même si c'est pas ça. De la lumière bleue, ça nous aidera pas. Mais évidemment que de diminuer la lumière bleue avec des lunettes ou en utilisant des fonctions de notre appareil, ça peut aider.
Oui, tout à fait. C'est sûr que terminer les 5 saisons de Breaking Bad le soir, c'est peut-être pas une bonne idée.
C'est peut-être pas une bonne idée.
Oui, c'est ce que je viens de faire. C'est vraiment bon, par exemple. Mais bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais je suis pas la seule, parce qu'hier, j'ai envoyé un courriel à 1h30 du matin à une personne, puis je pensais vraiment pas qu'elle allait me répondre. Puis elle m'a réécrit dans la minute. Je me suis dit, ben voyons que je suis pas toute seule à avoir ce problème-là. Puis j'ai dit, comment ça fait que tu dors pas? Elle m'a dit, je fais de l'insomnie. Ça, l'insomnie, là, Nadia, avant de vous laisser aller, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui veulent des trucs. Et surtout, bon, il y a quelqu'un qui me dit, moi, j'ai tout essayé. Il y a Judith qui dit, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir lu la méthode du docteur Charles Morin, qu'on connaît bien, là, Vaincre les ennemis du sommeil. Alors, je vous réfère à ce livre. Hein. Vous en pensez...
C'est un excellent livre qui donne tous les bons trucs pour réapprivoiser notre lit puis de diminuer notre anxiété liée au sommeil.
En même temps, bon, j'ai Stéphane qui me dit, moi, j'ai tout essayé, mais je réfléchis beaucoup, mon cerveau est tout le temps stimulé, je repense à plein d'affaires dans ma journée, à ce que je dois faire demain. Alors, bon, qu'est-ce que je peux prendre? Avaler, pilule, somnifère, est-ce qu'il y a des moyens là, que je peux m'aider là? La mélatonine, par exemple, vous en pensez quoi, vous?
La mélatonine peut aider chez certaines personnes, mais c'est pas miraculeux non plus. Comme je disais, c'est surtout les thérapies comportementales. Donc, c'est de réserver le lit pour dormir. Donc, pas d'écran dans la chambre, pas de travail dans le lit, pas de réponse à des courriels dans le lit. D'aller au lit lorsqu'on est vraiment fatigué. De dire, par exemple, « Ah, j'ai fait de l'insomnie la nuit dernière, donc ce soir, je vais me coucher à 8 heures pour essayer de dormir. » C'est
Dieu,
la pire chose. Ou 9 heures, ou 10 heures, mais de se coucher plus tôt qu'à l'habitude, c'est la pire chose à faire parce qu'évidemment qu'on va pas dormir et qu'on va encore développer encore plus notre anxiété liée au sommeil. Donc, c'est d'aller se coucher au moment où on est vraiment fatigué. Et si on réussit pas à dormir, ben de se relever et de faire une activité comme de la lecture et pas une lecture trop stimulante, une lecture plutôt endormante et de retourner au lit seulement lorsqu'on s'endort vraiment.
Nadia Gosselin, c'est vraiment très intéressant ce que vous nous racontez. On va essayer de mettre ça en pratique. On sort la télé de notre chambre, on sort les ordinateurs, les téléphones. Ça, c'est les écrans. Là, c'est une plaie. Là. Qu'est-ce que vous voulez? On est tellement accrochés à ça. Puis on essaie de faire un effort. En tout cas, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour ça. C'est la Journée internationale du sommeil. Merci beaucoup d'être venue à l'émission. Nadia est directrice scientifique du Centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. On va s'arrêter ici, mais c'est une très courte pause. Tout de suite après, je vais m'entretenir avec Martin Deschamps, gens que vous connaissez bien, passionné de plein d'affaires, mais surtout de guitare, de musique, bien sûr. Et puis, il va nous faire partager cette passion-là. À tout de suite, tout le monde.